côté énergique et festif de la musique. C'est pourquoi CKRL vous invite à une soirée bipolaire pour son 30e Radioton, samedi 2 avril à 21h à l'Ampli de Québec. La soirée débutera tout en douceur et en mélancolie avec Monsieur Mono.
Laisse le monde à son triste sort.
Et Pépé prendra ensuite le relais avec son rock cocasse et percutant. Si les deux artistes nous réservent d'autres surprises. La soirée bipolaire du Radioton de CKRL, le 2 avril à l'Ampli de Québec. 240 Saint-Joseph-Est. Ouverture des portes à 20h, 10$ à l'entrée.
Laissez-vous guider par vos émissions.
Cultive tes goûts.
Bonjour à tous, ici Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL. Un début de l'émission au 7e ciel, regard sur le cinéma. Cette semaine, ce qui va nous occuper, c'est un peu plus, je dirais, les nouvelles plateformes technologiques de diffusion du cinéma. Chose que j'évoque un peu en chaque début d'émission pour parler du spectre cinématographique qu'on embrasse au cours de cette heure et demie chaque samedi. Cette fois-ci, ça va l'être un peu plus dans la mesure où j'ai eu l'occasion d'assister aux rencontres cinématographiques de Québec qui avaient lieu jeudi, vendredi dernier, c'est-à-dire hier et avant-hier, au Musée de la Civilisation de Québec, une initiative du FC3A, donc Festival des Trois Amériques de Québec, un festival de cinéma qui a eu cours pendant plusieurs années, depuis le début des années 2000, et qui s'est arrêté il y a 2 ans. Les rencontres cinématographiques de Québec sont un premier jalon pour une relance de festival qui portera sans doute un autre nom. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, dans quelques mois, si les développements vont bon train, comme c'est annoncé. Mais pour l'instant, les rencontres feront l'essentiel de notre propos. J'en avais déjà parlé la semaine dernière en recevant Frédéric Lebrasseur, un batteur très connu de la scène musicale de Québec, de la scène, disons, musicale avant-garde et jazz de Québec, puisqu'il accompagnait l'événement festif du jeudi soir au Musée de la Civilisation, avec 2 autres musiciens, René Lucier, fameux guitariste d'avant-garde lui aussi, fameux pour l'inspiration largement cinématographique ou cinématographiée de certains de ses disques, par exemple Le Trésor de la langue, mais aussi connu pour ses musiques de film ou encore sa trame sonore qui accompagne Le Moulin à l'image chaque été à Québec, de Robert Lepage. Ensuite, André Bilodeau des Batins, entre autres, violoniste, Reine du Mambo était là. Il y avait une série d'images performatives, comment je pourrais dire les choses, d'images performatives qui étaient présentées. Donc, disons qu'il y avait une performance de projection qui accompagnait ce travail musical de 3 musiciens improvisateurs chevronnés. C'était donc piloté, cet événement-là était piloté par John Blouin, qui vient souvent participer à cette émission. Vous voyez la convergence imparable qu'implique pour ma part le fait de parler de cet événement, mais n'empêche, Ciné-Rêve Interactif, c'était une chose dont on parlait la semaine dernière et sur lequel je vais revenir aujourd'hui pour faire une sorte de compte-rendu finalement. Et donc il y aura ça, il y aura le contenu des rencontres cinématographiques plus largement qui va être abordé, entre autres une classe de maître particulièrement intéressante de Roger Frappier, fameux producteur québécois chevronné, producteur derrière des films tels que Le déclin de l'Empire américain, en Jésus de Montréal de Denis Arcand ou encore Un zoo la nuit de Jean-Claude Lerouzon, donc des films qui ont été des jalons essentiels de la production cinématographique de fiction au Québec dans les années 80, ou en tout cas qui ont marqué les esprits, ça c'est clair, et qui ont une résonance à un niveau international. Ensuite, producteur des premiers films de Denis Villeneuve, soit Un 32 sur Terre et Maestrom qui a été un sujet plus approfondi, un exemple patent du travail de producteur essentiel pour Roger Frappier, ou en tout cas sa démonstration impliquait beaucoup la référence à son expérience sur la production du film Maestrom, et j'y reviendrai plus abondamment au-delà du propos du film sur lequel je me suis déjà un peu étendu il y a quelques semaines, puisque j'avais fait un petit survol de la carrière de Denis Villeneuve. Je prendrai plutôt l'exemple de Frappier pour parler un peu plus de la production de cinéma et pas nécessairement de la proposition artistique de Villeneuve en tant que telle dans Maestrom. Et puis aussi, c'est ça, de manière plus large, je me concentrerai sur la donne qui change en fait en ce qui a trait aux nouvelles plateformes de diffusion du cinéma, entre autres sur le web. Il y a eu un panel, entre autres, sur cette question qui avait lieu hier aux Rencontres cinématographiques de Québec, avec des personnages venant de différents horizons. Je dis des personnages venant des conférenciers, mais qui ont un parcours singulier qui leur donne pratiquement un statut de personnage. Je reviendrai tout à l'heure. Et puis, les nouvelles plateformes de diffusion amènent aussi de nouvelles manières de régimenter, évidemment, la question des droits d'auteur. On sait que c'est un sujet qui a cours en ce moment, et qui est essentiel, disons, pour tous les artistes et le milieu culturel afin de défendre les droits d'auteur sur les nouvelles plateformes de diffusion. Tout ça autour du projet de loi C-32 qui a défrayé la manchette depuis quelques semaines. Donc, je reviendrai un peu sur l'incidence que pourrait avoir, ou plutôt qu'aurait pu avoir le projet de loi C-32 et quelle est la position canadienne par rapport aux droits d'auteur en regard des positions européennes en particulier sur les nouvelles plateformes de diffusion et sur les diverses méthodes de téléchargement d'œuvres cinématographiques et ou musicales sur Internet. C'est pas un sujet pointu, c'est au contraire toutes les nouvelles habitudes de spectateurs et les nouvelles approches du cinéma qui sont convoquées à travers ces enjeux légaux qui de toute façon sont au cœur de l'actualité. Donc il y avait hier, le maître Daniel Payette, qui a défendu plus de 1500 auteurs et artistes concernant cette question de droit, qui était venu faire une conférence particulièrement éloquente. Donc, c'est un peu le programme de la journée, un retour sur les rencontres cinématographiques de Québec. On vient d'entendre l'excellent et excentrique Sonora, un album de la fin des années 70 qui s'appelle On Jupiter. C'était la pièce titre de cet album, une excursion un peu funky, un peu plutôt unique dans le parcours de ce personnage de la scène musicale jazz américaine, personnage excentrique qui disait venir de Saturne et qui avait une iconologie, une imagerie largement inspirée de la culture égyptienne antique, pharaonique. Sonra et la pièce On Jupiter. Donc, je disais juste avant cet intermède musical plutôt planant, malgré son excentricité, que un événement assez étonnant avait lieu jeudi au Musée de la Civilisation qui s'appelle Cinélève Interactif. Qu'est-ce que c'est? On en a parlé un peu la semaine dernière avec Frédéric Lebrasseur. Le Cinélève, c'est quoi? C'est essentiellement l'occasion de faire intervenir également le public dans la construction d'un spectacle où l'enchaînement d'images, le montage, l'improvisation cinématographique est au cœur de l'événement. Et cette fabrication-là d'événementiel se fait dans une sorte de symbiose entre musiciens, projectionnistes, performeurs aguerris et le public. Donc, c'est une expérience qui était pratiquement inédite. Et impliquer aussi la collaboration d'un groupe qui s'appelle You Send Live et qui permettait finalement, je l'explicite un peu plus, d'offrir au public la diffusion d'images qu'ils pouvaient avoir choisies au préalable, de préférence en fait avant l'événement. On incitait le public à trouver des images et à les télécharger sur leur téléphone intelligent en les envoyant à une adresse internet et à une adresse courriel en fait. Et depuis cette adresse, les disons gestionnaires du système YouSend Live qui étaient présents sur place pendant le spectacle, évidemment, pouvaient transférer le lot d'images proposées par le public sur l'écran, de manière à ce que ça s'entremêle avec tout un effet de projection multiple disparate proposé par John Blue Quinn et renforcé par le travail d'improvisation des musiciens. Donc, qu'est-ce que ça impliquait? Ben, ça impliquait de proposer finalement une manière de concevoir le cinéma qui déroge un peu des idées reçues sur la production cinématographique aujourd'hui. Bon, je vais parler tout à l'heure de l'importance des nouvelles plateformes de diffusion pour comprendre où s'en va le cinéma, quelle est la place du cinéma dans le monde. J'ai souvent dit dans le cadre de cette émission que le cinéma est à la fois de plus en plus présent et de moins en moins concevable ou important d'une manière traditionnelle. C'est-à-dire, quand je parle de cinéma traditionnel, je parle évidemment de la projection en salle. La projection en salle demeure, disons, un événement rassembleur pour lequel il faut de plus en plus battre pour qu'il soit mis en valeur, pour que le public vienne, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas venir, au contraire, mais simplement, l'événement est de plus en plus important pour faire comprendre au public aujourd'hui la singularité de la projection cinématographique dans un cadre qui n'est pas privé. De plus en plus, le cinéma a été ravalé par la télévision, alors même qu'il influence forcément en le simplifiant. Le cinéma, en étant simplifié, le cinéma influence de plus en plus, la manière dont la télévision est faite. On n'a qu'à regarder le succès des téléséries sur une base régulière. Disons que la vente, par exemple, de DVD, et là, le succès des ventes en DVD est largement tributaire encore de la vente des coffrets en téléséries. Bon, là, on parle en termes commerciaux, mais disons que je vais quand même prendre pas mal cet angle aujourd'hui de l'angle commercial pour essayer de comprendre dans d'une manière assez large, quel est ce phénomène auquel on assiste en ce moment, c'est-à-dire la transformation du cinéma et la nouvelle place qu'on doit lui accorder, la nouvelle donne qui lui est assignée. Donc, de plus en plus souligner le cinéma comme un événement festif pour que ça puisse être rassembleur, C'est presque un mandat éducatif, en fait. Parce que si, d'une certaine manière, le cinéma se dilue de plus en plus dans la télévision, en simplifiant ses méthodes de montage, sa complexité artistique, et en la diluant, entre autres, sur une base quotidienne, ben, forcément, on peut finir par perdre à la fois les origines et la complexité artistique du cinéma, qui fait de ce moyen d'expression une forme d'art à part entière. Puis, on peut aussi se retrouver à laisser de côté tout un pan du cinéma qui existe encore aujourd'hui, qui demande une présentation en salle, qui appelle à une projection plus traditionnelle, ce qui ne veut pas dire que avec la tradition de la projection cinématographique, qui est quand même une tradition très, très récente par rapport à la notion de concert en musique, etc. Donc, l'événement cinématographique, sa tradition, elle est réactivée sans cesse chaque année. On peut le voir si on circule dans les festivals, à travers des visions singulière de cinéastes qui continuent à inventer sur le terrain plus traditionnel du cinéma. Donc, comment faire simplement pour faire venir le public, faire comprendre à celui-ci comment il y a des artistes extrêmement sensibles qui savent témoigner de l'époque à travers les moyens du cinéma tels qu'ils ont été déployés au cours du dernier siècle. C'est un peu le défi ces années-ci pour ceux qui œuvrent dans ce milieu-là. Et la possibilité de faire un événement festif rassembleur autour du cinéma, disons en renforçant cette dimension festive, était sûrement un des arguments principaux pour lesquels les rencontres cinématographiques de Québec ont impliqué de mettre de l'avant davantage un spectacle cinématographique dans la mesure où, finalement, le seul événement rassembleur grand public au cours de ces rencontres qui annoncent un festival à venir avait lieu ce jeudi. Donc, renforcer le caractère événementiel spectaculaire de la proposition cinématographique, c'est un peu le but. Évidemment, quand on parle de cinéma, on peut en parler de diverses manières. Et dans le cas de CinéLive, on est du côté du cinéma, mais en un sens expérimental. Toute l'histoire du cinéma est jalonnée, j'en ai parlé beaucoup dans les émissions précédentes, par des expérimentations. Ça peut se faire dans un cadre traditionnel, ce contexte de projection, de présentation grand public que j'évoquais à l'instant. Donc, l'espace tout à fait rassurant du cocon de la salle de cinéma dans lequel un public se retrouve et assiste à une projection pour voir souvent soit un documentaire ou un film de fiction d'environ 1h30. Mais évidemment, il y a tout le territoire de création, le terrain de jeu de création des courts-métrages qui a un grand succès ces années-ci. Et puis encore là, au sein de ce terrain de jeu, il y a aussi le cinéma expérimental. Et le cinéma expérimental, c'est quand même toute une part de l'histoire du cinéma, la part la plus exigeante peut-être pour un spectateur moyen, dans la mesure où souvent il n'y a pas de film narratif. Mais c'est aussi sa part la plus stimulante en ce qui a trait à l'innovation, parce que l'expérimentation, c'est un terme que j'aime pas tellement lorsqu'on parle d'art en général, pas seulement de cinéma expérimental, mais aussi de musique expérimentale. C'est un thème que j'aime pas tellement dans la mesure où il laisse entendre qu'on assiste à une sorte de représentation où des artistes se retrouvent en laboratoire comme des petits scientifiques et n'ont pas ou très peu d'attention accordée au public. Au contraire, je pense que ce qu'on qualifie de cinéma expérimental ou d'œuvre cinématographique expérimentale, comme le CinéLife, doit être considéré dans son sens plein, comme une forme en soi qui a peut-être pas un début ou une fin, mais qui a un but et qui est une entité propre à part entière, ni plus ni moins. C'est pas nécessairement parce qu'une œuvre semble inachevée que sa portée artistique est moindre. Donc, lorsqu'on expérimente, comme ça a été fait dans le cadre du CinéLive interactif, on est face à une nouvelle manière de faire du cinéma en essayant d'être à la fine pointe de la technologie, ce qui était le plan de match de nouveau festival de cinéma il y a quelques jours.
Yeah. Si vous êtes comme moi, vous trouvez que l'univers des médias et du divertissement doit se savourer comme un bon vin. Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À ce temps, venez voir ce qui reste. Venez développer votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Nîmes-Cassé du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos.
Là, tu dis, c'était gratis.
Douteux.org. Si vous avez des questions, ben, nous autres avec.
Plus de 70 000. C'est précisément le nombre de personnes qui écoutent CKRL 89.1 dans la grande région de Québec et les environs. Depuis 1973, grâce à vous, CKRL se construit, se bâtit, évolue et grandit. Toujours à l'écoute. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Le restaurant Le Poisson d'Avril est fier de présenter la première journée du 30e Radioton de CKRL. Depuis 1991, Le Poisson d'Avril fait le bonheur de sa clientèle avec sa bouillabaisse, ses moules à volonté, ses poissons frais et ses grillades de bœuf, agneau et gibier. Situé dans le Vieux-Port de Québec depuis 1996, Le Poisson d'Avril se veut le repère des amateurs de bonne chair et de bon temps. Le Poisson d'Avril, c'est aussi un service de traiteur professionnel et attentionné à la hauteur de la réputation du restaurant. Tout comme CKRL, Le Poisson d'Avril favorise la découverte dans un endroit chaleureux et vous souhaite bienvenue à bord et bienvenue chez vous. 88-692-1010. À ne pas manquer vendredi 1er avril dès 15h30, l'émission de lancement du 30e Radioton de CKRL avec les Breastfeeders. En soirée, Michel Dubois reçoit Paul Deslauriers et Don Taylor Watson et Olivier Bersoli nous présente Slaves on Dope et Devil Drowned.
Tous les jours de la semaine, de 13h30 à 15h30, Le Cercle vous présente l'émission Nouveau Cru sur les ondes de CKRL. Une programmation résolument actuelle à l'image du Cercle.
À ne pas manquer en mars, le groupe phare Grimmskunk le 17, Basma Boom, Daddy Rushy et Papati le 18, la soirée Ponsacourt le 21, Mono Grenade le 24, Papa Groove le 25 et William Fitzsimmons et Slow Runner le 26.
Le Cercle.ca.
Notre directeur musical Daniel Marcoux vous concocte une sélection toute francophone. Réveillez-vous en français d'abord.
Fleur avec vous sur les ondes de CKRL, vous écoutez au 7e ciel, regard sur le cinéma, deuxième demi-heure d'une émission qui s'étend de 16h à 17h30 pour parler de cinéma. Cette semaine, comme je le disais en début d'émission et comme je m'applique à le souligner depuis tout à l'heure, je souligne encore un événement qui a été marquant certainement cette semaine, puisqu'il inaugure en tout cas un nouveau cycle dans la manière de voir ou du moins d'envisager un festival de cinéma à Québec. J'évoquais la question de la diffusion du cinéma tout à l'heure. C'est sûr que c'est important. La diffusion, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire rendre finalement le cinéma encore plus événementiel, mettre de l'avant sa dimension spectaculaire, rassembleur. Et l'événement le cinéma interactif qui avait lieu jeudi soir au Musée de la Civilisation était une manière déjà de souligner cette façon d'envisager très festive l'événement cinématographique. Le cinéma interactif, c'était non seulement un lieu donc où le public était appelé à interagir avec les images qui étaient présentées à l'écran et peut-être aussi sous l'influence des musiciens qui improvisaient en ayant à l'esprit toute cette chaîne d'images projetées par John Lewin sur l'écran. Donc il y avait comme ça une sérénade à trois qui se déroulait jeudi soir au musée entre public, musicien et projectionniste. Cette sorte de triangle magique est au cœur de ce qu'on peut qualifier d'événement festif cinématographique. L'image, évidemment, au cinéma, c'est le cœur du propos des 40 premières années, plus ou moins 40 premières années de son histoire. Surtout pour le cinéma québécois qui, jusqu'en 37, était muet. Donc, 7-8 ans de décalage avec les avancées technologiques les plus propagées sous la forme de l'exploitation cinématographique normative. Donc, c'est-à-dire que le cinéma américain, pour parler de manière moins floue, excusez-moi, proposait du cinéma sonore depuis le début des années 30 et le cinéma québécois peu à peu rajustait le tir. Donc, le cinéma, c'est non seulement un agencement d'images en mouvement, mais c'est encore, avec un propos fictionnel ou documentaire, mais c'est encore aussi du son. Depuis finalement la plus large part de l'histoire du cinéma aujourd'hui, le cinéma muet étant en une part de plus en plus de plus en plus infime à mesure que l'histoire du cinéma évidemment avance et que les images en mouvement se propagent partout et que le temps passe. Donc le cinéma, c'est beaucoup du son et beaucoup d'avancées technologiques qui ont changé la sensibilité cinématographique ou la force expressive du cinéma ces dernières décennies impliquent le son. Et qu'on pense à des cinéastes comme Robert Bresson, qui a accordé une importance si vive, si précise à la voix des acteurs qu'il faisait doubler, non pas parce qu'il n'avait pas le son lorsqu'il filmait dans un premier temps ses acteurs dans le contexte de films de fiction comme par exemple Pickpocket en 1959 qui est peut-être emblématique de ce travail-là, mais simplement parce qu'il cherchait une sonorité particulière à ses voix qu'il voulait mettre de l'avant. Et parfois même les acteurs qui jouaient dans ses films n'étaient pas appelés à utiliser leur propre voix dans leur rôle. C'est-à-dire que lorsque le tournage se faisait, Robert Bresson pouvait très bien décider de ne pas conserver au montage sonore les voix de ses acteurs ou de ce qu'il appelait ses modèles. C'est donc dire qu'il mettait à la place des voix qu'il appréciait, qui correspondaient à la sensibilité qu'il voulait exprimer en termes de son dans le contexte de fiction qu'il mettait en place. Donc, rupture entre l'image et le son, dynamique dialectique entre image et le son, c'est toute une dimension de l'esthétique cinématographique qui a été développée depuis 60-70 ans autour de cette relation ambiguë, complexe, auquel on peut ajouter aussi peut-être un autre élément qui serait les effets spéciaux qui occupent de plus en plus de place lorsqu'on pense aux films numérisés. De plus en plus, les effets spéciaux sont utilisés non seulement de manière spectaculaire, comme ça a été le cas souvent, pour créer de l'irréel ou de l'irréalisme et le rendre palpable, par exemple un personnage comme King Kong, etc., des effets spéciaux mécaniques. Donc la technologie de plus en plus s'est rapprochée d'une forme de, dans le cinéma, par la caméra, par la production sonore, s'est rapproché d'une forme d'irréalisme. Et même le documentaire, jusqu'à un certain point, on pourrait débattre là-dessus, est forcément teinté d'irréalisme, non seulement à cause du montage et des choix que peut faire un cinéaste pour agencer des images en qu'il aura tourné avec des gens dans la vie courante, mais aussi par son travail sur le son. Et le travail sur le son, c'est une grande part donc de l'esthétique cinématographique. Bresson en est un bon exemple avec son travail sur les acteurs et sa rupture entre le corps et la voix, où forcément, tout à coup, il y a une dimension un peu irréelle qui émerge, qui nous fait voir les personnages comme qu'ils montrent comme étant plus vrais que nature, leur voix enregistrée en studio, leur confère hein, une résonance assez troublante, assez étrange. Parfois, on a l'impression que les personnages qui jouent dans les films de Bresson, que ce soit dans des films que vous pouvez retrouver dans quelques bons clubs vidéo de la ville comme et à la bibliothèque Gabriel Leroy, par exemple, des films comme Pickpocket, que j'ai nommé à l'instant, Mouchette, ou encore Lancelot du Lac, etc. Ces films-là ont une dimension tout à fait étrange, irréelle, presque magique, qui a à voir avec le travail sur le son et cette relation entre l'image et le son. Et dans ce contexte-là, ça semblait en fait naturel de mettre de l'avant des musiciens pour accompagner toute une performance de projection, comme c'était le cas jeudi dernier. Et de manière plus large, à CineLive Interactif, je peux dire que ce phénomène-là, finalement, d'accompagnement musical autour de projections de films, qui est de plus en plus présent, en particulier au Québec, on le voyait aussi au Mois Multi, il y a quelques semaines, à travers un événement qui s'appelait Concert de Free Jazz, et qui était en fait un événement qui mettait en scène, si on veut, Carl Lemieux, qui faisait des projections de manière en direct, en fait un peu performative, comme le faisait John Blouin jeudi dernier. Donc ils sont un peu de la même école, ils sont de la même époque, ils ont une sensibilité semblable, en tout cas ils se rejoignent par leurs préoccupations. Et Carl Lemieux était accompagné de trois musiciens, ces trois musiciens-là faisaient un travail essentiellement musical en utilisant des nouvelles technologies, en utilisant leur laptop, leur petit portable, avec lesquels ils produisaient des sons qui étaient en phase ou en rupture avec les images présentées sur l'écran devant le public. C'est-à-dire que la rupture entre l'image et le son était essentielle. Et c'est très drôle que cet événement-là ait été appelé concert de free jazz à cause d'un malentendu entre les artistes qui préparaient leur spectacle et les programmateurs du Mois Multi. Malgré tout, tout le monde était prêt à assumer ce titre-là. Pourtant, il ne s'agissait pas du tout d'un concert. Au contraire, c'était comme, à mon sens, une expérience supra cinématographique, puisque la sensibilité, disons, expérimentale était très, très vive au niveau du travail sur le montage en direct et les images en mouvement. Et en plus, cette sensibilité-là, on y faisait écho par un travail sur le son que proposaient les musiciens. Donc, ça pouvait être considéré comme un concert, mais de plus en plus, les événements cinématographiques sont appelés à devenir festifs, à devenir des lieux rassembleurs au même titre que le son, les concerts de musique. Et disons que c'est pas nécessairement en allant au cinéma qu'on vit une expérience semblable à celle de la musique, mais le cinéma est quand même aussi souvent de la musique en mouvement, ne serait-ce que par l'importance qu'on accorde au son, même dans un cinéma plus traditionnel, celui de la projection en salle. Non seulement quelqu'un comme Bresson est essentiel dans son apport cinématographique parce qu'il a travaillé sur une dialectique étrange entre l'image et le son, mais un cinéaste comme David Lynch aussi est une référence très très importante pour comprendre les avancées poétiques du cinéma aujourd'hui. Souvent des éclats de violence. On sait que David Lynch, par exemple, dans des films comme Wild at Heart ou encore Blue Velvet, de manière peut-être plus choquante ou plus troublante dans Mulholland Drive, utilise un travail sur le son qui fait toute la singularité de son approche du médium cinématographique. Et aujourd'hui, le trouble, la violence qu'on attribue à David Lynch, on s'y attarde un tout petit peu, ne peut pas être dissociable de son travail sur le son, parce que c'est souvent lorsqu'il s'applique à mettre en scène la violence qu'il innove. sur le plan sonore et sur le plan du montage entre l'image et le son.
Thank you.
Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL, vous écoutez au 7e ciel, regard sur le cinéma. On arrive vers la fin de la deuxième demi-heure de cette émission et on vient d'entendre deux pièces avec lesquelles s'amorce un nouvel album de Lola Lafont qui s'appelle Une vie de voleuse, un album qui vient tout juste de paraître sur étiquette Chant du Monde d'Harmonia Mundi. Vous pouvez le trouver chez certains disquaires locaux attentifs. Lola Lafont est une écrivaine, elle chante aussi avec une sensibilité qui s'approche un peu des Têtes-Raides, ou en tout cas sur son premier album qu'elle avait fait il y a déjà 5 ans, je crois. Elle avait entre autres un duo avec le chanteur des Têtes-Raides et exprimait beaucoup de préoccupations altermondialistes, c'est pas pour rien, ou en tout cas une sensibilité européenne qui correspond pas à une sensibilité de l'Ouest, si on veut, ou disons une sensibilité qui serait celle des nouveaux riches, rutilants, ou de l'Europe qui va bien, mais qui va pas si bien que ça de toute façon. Lola Lafont a grandi, entre autres, en Bulgarie et en Roumanie. Donc, s'il y a une dimension musicale à la fois bulgare et bucarestoise, c'est peut-être pas innocent. Ça fait partie de l'univers qui caractérise son travail de chanteuse et qui la rend tout à fait singulière dans le paysage, je pense, de la chanson française actuelle. Ça la rend d'autant plus intéressante. Et c'est assez rare aussi de constater que quelqu'un comme elle, qui est donc également une représentante de la nouvelle génération des chanteurs, chanteuses, est aussi une écrivaine de talent. Donc c'est assez rare que ces deux formes d'art se rejoignent, du moins d'une manière aussi rapide et d'une manière aussi évidente. Et c'est d'ailleurs fait connaître dans un premier temps à titre d'écrivaine. Donc voilà pour la petite présentation en ce qui a trait au contenu musical qu'on vient d'entendre. Maintenant, encore quelques minutes peut-être pour commencer à parler de cette classe de même de Roger Frappier qui avait lieu hier, vendredi, en fin de journée au Musée de la Civilisation, avec laquelle se terminaient les rencontres cinématographiques de Québec. Je dois préciser que les rencontres cinématographiques de Québec étaient principalement un événement qui touchait, qui cherchait à rejoindre en fait le milieu de la production, non seulement à Québec, mais dans la région et de manière plus large, partout dans la province et dans les régions en particulier. C'est un événement qui était organisé cette année par le Festival du cinéma des Trois Amériques, qui l'était également lorsque ce festival, sous ce nom, avait cours il y a encore 2 ans, qui a arrêté il n'y a pas eu d'édition l'année dernière, et cette année, les rencontres reviennent, c'est l'occasion de constater qu'il y avait un besoin du milieu pour ça, et au-delà du volet plus corpo, une manière de rassembler le milieu, il y avait cet événement festif de Cinélive interactif qui était davantage axé sur la dimension de festival de cinéma, disons l'aspect ligne éditoriale artistique était souligné à travers cet événement. Et maintenant, un autre événement qui avait lieu et qui était ouvert au public, c'était la classe de maître de Roger Frappier. Et c'était une classe de maître particulièrement intéressante. Évidemment, Roger Frappier, c'est difficile de l'ignorer. Et je ne verrais pas pourquoi on l'ignorait, mais c'est difficile de l'ignorer si on pense à la production cinématographique des dernières décennies au Québec, pour ce qui concerne en particulier la fiction. Frappier a un statut très, très particulier. D'une part, parce qu'il a réussi, entre guillemets, à produire des films qui ont une réception internationale très forte. C'est sans doute le producteur ces dernières années qui a eu le plus de succès, à ma connaissance, à un niveau international, ou en tout cas qui a eu le plus de succès sur deux niveaux. Aussi bien au niveau de la reconnaissance du public, avec des films comme La Grande Séduction, par exemple, qui a vraiment trouvé son public en Europe, c'est très clair, mais aussi je me souviens très bien de m'être baladé justement au cours de l'été, au moment où sortait La Grande Séduction, ça devait être en 2004. J'étais à Munich, le film était annoncé sur les autobus, en même temps que Mambo Italiano d'ailleurs, ce qui m'avait un peu, j'allais dire choqué du moins, m'avait déstabilisé. Donc c'était une année assez charnière pour le succès du cinéma québécois à l'étranger, mais c'était aussi un moment important pour le parcours cinématographique de Roger Frappier à titre de producteur, puisque le film La Grande Séduction allait atteindre un succès qui n'avait pas d'équivalent, hormis dans cette période-là, disons dans le courant des années 2000, hormis Les Évasions barbares, qui sortaient pratiquement en même temps, donc qui était sorti en fait, si ma mémoire est bonne, quelques mois auparavant. Alors, bon, Frappier est évidemment le producteur derrière Le Déclin de l'Empire américain, le producteur derrière aussi les débuts relativement flamboyants de Denis Villeneuve, un peu moins flamboyants que ces années-ci, mais quand même, Frappier a contribué, c'est très clair, et je pense que c'était un des objectifs terminaux de sa classe de maître, à mettre de l'avant plusieurs talents, à contribuer à les faire éclore, à leur donner des bonnes conditions pour leur permettre de faire un travail qui correspondrait à leur attente, mais aussi qui correspondrait à leurs possibilités, à leurs capacités. Et un des arguments finalement importants que mettait de l'avant donc Frappier hier, c'était le fait que la position du producteur ne doit pas être à 100 000 milles de celle du réalisateur, même si des fois il y a des moments de conflit. La question je dirais du consensus, mais ça peut paraître un peu négatif. Je suis pas un fan du consensus non plus, mais la question de la relation entre producteur et réalisateur n'est pas envisagée par Roger Frappier comme un rapport conflictuel, évidemment, mais surtout pas un rapport de confrontation ou un rapport asymétrique où forcément le producteur aurait la position de pouvoir vis-à-vis de Denis Villeneuve, par exemple, ou d'autres réalisateurs avec lesquels il a travaillé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rapports de force entre eux. Je pense que ce serait se mettre la tête sous le sable que d'affirmer ça. Et je ne pense pas non plus que Frappier cherchait à dire ça, mais simplement trouver un terrain d'entente par lequel il est possible de faire un film qui correspond à la fois aux visées du cinéaste qui veut mener à bien son projet et également aux visées du producteur qui le soutient. Donc, je pourrais peut-être revenir avec un peu plus de détails sur cette approche, cette mentalité qui nourrit donc le travail de production de Roger Frappier depuis pratiquement 3 décennies.
La Caisse d'économie solidaire Desjardins vous invite à ne rien manquer du 30e Radioton de CKRL. Au programme samedi le 2 avril,
on vous invite à la galerie avec Julie Gagné qui reçoit les artistes de l'exposition.
À 19h,
c'est notre party de cuisine accompagnée de musique traditionnelle avec les chauffeurs à pied et leurs invités. Et on termine avec la nuit thématique de Stéphane Villeneuve et Jean-Sébastien Grondin. Beatles versus Rolling Stones.
La Caisse d'économie solidaire soutient 2800 coopératives et organismes sans but lucratif partout au Québec.
Le Théâtre Sans Porte présente Chinoiserie, une pièce d'Evelyne de la Chenelière dans une mise en scène de Daniel Ross. Pour savoir si Monsieur Chiton et Madame Poté parviendront à se rencontrer, assistez à cette pièce romanesque et rocambolesque. À voir à premier acte au 870 avenue de Salaberry du 31 mars au 2 avril à 20h et le 3 avril à 14h. Informations théâtresansporte.com 88 529 6300.
Pour sa 25e année, le Bal du Lézard poursuit sa mission de faire découvrir au public des artistes et groupes de la relève. Le tout dans l'environnement unique du bal et devant une clientèle qui a soif de nouveaux sons, tout genre confondu.
À ne pas manquer en mars, Mademoiselle Giraffe le 3, Antoine Corriveau le 5, GMC Project le 10, la formation Remind le 12, Limétrique le 17, Friday Night Shuffle le 19, Randall Spear le 24 et Hommage à Zappa le 26.
Le Bal du Lézard, 1049, 3e avenue.
Si vous êtes comme moi, vous trouvez que l'univers des médias et du divertissement doit se savourer comme un bon vin. Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À ce temps, venez voir ce qui reste. Venez développer votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Nincassie du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos.
Là, tu dis, c'est gratis.
Douteux.org. Si vous avez des questions, ben, nous autres avec.
Du 21 mars au 3 avril, les artistes de Québec s'unissent afin d'appuyer CKRL et son 30e Radioton. Une exposition collective est présentée à l'Ampli de Québec, 240 rue Saint-Joseph-Est, et seront mises en vente à l'encan du Radioton de CKRL. Réalisée sous la direction d'Amélie Bédard de la Galerie Zara, l'exposition réunira une dizaine d'artistes de la capitale nationale. Les œuvres seront tout d'abord mises à l'encan silencieux sur place et les mises finales se feront par téléphone au 88 640 2575 durant le Radioton. L'exposition est présentée à l'Ampli du 21 mars au 3 avril, du mercredi au vendredi, de 16h à 18h et le samedi de 10h à 17h. Les photos des œuvres sont disponibles à ckrl.qc.ca dans la section Radioton. Faites votre mise!
Sur les ondes de CKRL, vous écoutez Au 7e ciel, regard sur le cinéma, dernière demi-heure de cette émission. Pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, je vais rappeler un peu quel était mon propos et mon sujet juste avant la pause. Donc, il était question d'une... je vais continuer à en parler, là. Ne vous en faites pas. Il était question déjà d'une classe de maître que donnait le producteur québécois très fameux, Roger Frappier, hier au Musée de la civilisation de Québec. Je vais continuer à en parler un peu. J'ai commencé à en parler il y a quelques minutes en indiquant un des points forts de cette classe de maître qui était l'exposition par Frappier de l'importance qu'il accordait à la bonne entente entre le producteur et le réalisateur, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions et des remous, mais simplement que chacun s'entende bien sur ce qu'est le projet du film et sur la vision du film. Donc, le producteur n'a pas à avoir un autre agenda que le réalisateur autour du projet d'un même film. Maintenant, cette vision-là du producteur partagée avec le réalisateur amène une autre question qui a été abordée lors de la période de discussion à la fin de la classe de main de M. Frappier, c'est-à-dire, finalement, quelle est la vision ou le point de vue qu'un producteur comme lui veut défendre du cinéma? Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale dans les films qu'il produit? Est-ce qu'il y a une cohérence interne, finalement, à toutes ces productions? Est-ce qu'on peut dire que sa boîte de production, Max Film, a un catalogue cohérent qui suppose une certaine vision du cinéma qui, à chaque fois, est remise sur le tapis à travers des projets divers. Donc, cette question-là, Roger Frappier y répond d'une manière assez intéressante en prenant exemple sur des producteurs, entre autres, Le producteur Saul Kinz, qui a soutenu plusieurs projets du réalisateur Milos Forman, Vol au-dessus de Coucou, film très connu de 76 qui a mis de l'avant, ou en tout cas qui a contribué largement à la carrière que l'on a connue et qu'on connaît de Jack Nicholson. Ensuite, l'autre projet de Forman qui avait été particulièrement marquant et soutenu par Kinz, c'était Amadeus, et ensuite, plus tard, disons ces dernières années, Les Fantômes de Goya. Donc, entre autres, le producteur de Forman, par ailleurs, un producteur qui a fait, si je comprends bien, en basant sur la liste des films qui étaient présentés sur le PowerPoint de M. Frappier, un producteur qui a fait très peu de films. C'est intéressant qu'il sorte cet exemple, non pas parce que Zenz a une ligne éditoriale très nette, sans doute plus nette que celle de Frappier, mais parce qu'elle, ne serait-ce que parce qu'elle est beaucoup plus dépouillée, mais parce que, en fait, il souligne le fait, à travers ses films, qu'une certaine approche de la production peut être, en fait, la défense d'un point de vue singulier de réalisateur qui ne va pas en opposition avec le public. Et lorsqu'on posait la question à Roger Frappier à savoir quelle est la ligne éditoriale de son travail, elle pourrait se répondre comme ça, c'est-à-dire la capacité à mettre de l'avant des films qui soutiennent une vision d'auteur forte et qui ont aussi à cœur de rejoindre un large public. Et pourtant, cette défense-là, elle est peut-être difficile à maintenir, parce que c'est pas parce que, évidemment, on sait très bien que des films peuvent très bien rencontrer leur public sans pour autant avoir l'aval des financiers ou des bailleurs de fonds. C'est le cas d'un film comme Le Déclin de l'Empire américain. Évidemment, Le Déclin de l'Empire américain a été financé à l'époque sans trop de problèmes, apparemment, en l'espace de de quelques mois, mais Frappier souligne aujourd'hui que ce serait impossible de se financer aussi rapidement. Il considère même que ce film-là ne pourrait pas être produit dans les conditions de production qui prévalent aujourd'hui au Québec. Donc c'est évidemment assez inquiétant. Je me souviens qu'il y a quelques années, un éditeur connu dont on pourrait taire le nom par respect pour ses descendants... Vous remarquerez là que j'ai un ton ironique, avait indiqué qu'aujourd'hui, plus personne ne publierait Hubert Aquin, qui est quand même un des écrivains les plus marquants, je dis ça comme ça, de l'histoire de la littérature québécoise moderne. Donc, évidemment, c'est toujours des choses qui sont assez inquiétantes lorsqu'on entend des gens fredonner. Oui, c'est comme s'ils nous lançaient une chanson qu'on n'a pas envie d'entendre, en fait. Donc, lorsqu'on entend des producteurs affirmer que des projets qui ont été marquants pour la culture ne pourraient plus avoir lieu aujourd'hui, il y a toujours, derrière ce genre d'affirmation, une inquiétude qui peut poindre chez l'auditeur attentif à ça. Savoir est-ce que le producteur, ou parfois il y a des réalisateurs aussi qui le disent, sont en train d'affirmer « après moi le déluge ». Mais je pense que l'affirmation de Roger Frappier est peut-être beaucoup moins narcissique que ça, je le crois. C'est-à-dire que il sonne un peu l'alarme quant aux conditions de production qui ont cours aujourd'hui au Québec. C'est-à-dire que maintenant, pour monter un projet, ça prend un minimum 3 ans. Une fois que le scénario est écrit, c'est difficile de considérer, par exemple, qu'un film va être soutenu tout de suite par les bailleurs de fonds, surtout s'il s'agit d'un premier film. Très, très rare qu'un film, évidemment, soit soutenu à la fois par la SODEC, par le Téléfilm Canada et encore par les conseils des arts à un niveau plus alimentaire là, pour financer la scénarisation, par exemple, donc avec beaucoup moins de moyens que ce qu'appelle l'industrie cinématographique, donc une bourse d'écriture. Très difficile à obtenir lorsqu'on dépose un premier projet. Et entre autres, c'est un élément parmi d'autres, entre autres, ça fait en sorte que les films sortent assez peu, mais les projets soutenus par un producteur ne peuvent pas sortir très rapidement après qu'ils aient été après que l'engrenage soit amorcé autour de la mise en place du projet. Donc, ces contraintes-là de production faisaient dire à Frappier que un argument qui avait été entendu par un comité de lecture qui lisait le scénario du déclin de l'Empire américain à l'époque, donc en 84-85, serait aujourd'hui majoritaire, c'est-à-dire on fait pas un film avec des personnes qui discutent autour d'une table. Chose que j'ai souvent entendue pour ma part ces dernières années. Moi, deux personnes qui se parlent devant une table, ça m'intéresse pas. Mais oui, mais évidemment, ça dépend ce qu'on y dit. Et c'est quand même toute une part de l'histoire du cinéma contemporain qui s'est dessinée autour des dialogues et un préjugé tenace qui est encore en place aujourd'hui, finalement. C'est ce que je constate en entendant le commentaire de Frappier hier. Un préjugé tenace suppose que la mise en scène des dialogues au cinéma est forcément l'occasion pour un cinéaste de témoigner sa sensibilité plus théâtrale, de sa difficulté à s'arrimer à la forme cinématographique, sa résistance même à la forme cinématographique qui est essentiellement une forme qui s'exprime par l'image. Et c'est là où je rejoins en fait un propos que j'avais plus tôt au cours de cette émission, c'est-à-dire l'importance essentielle, historique, qu'on doit accorder au son dans le cinéma, c'est-à-dire que depuis 70 ans, l'évolution du cinéma sur le plan de l'esthétique et sur le plan purement sensible se fait entre autres par une tension entre l'image et le son. Et évidemment, la mise en scène des dialogues est souvent critiquée. Mais il faut avoir en tête que c'est pas parce que les gens parlent qu'il se passe pas quelque chose autour sur le plan visuel. Souvent, il y a une rupture évidente entre les actes que posent les personnages et les paroles qu'ils énoncent. Et c'est tout le thème de cinéastes qui ont eu tellement à cœur, finalement, la mise en scène des dialogues. Je parle de cinéastes comme Éric Rohmer, qui est un des... j'en ai déjà parlé ici, évidemment, une des figures majeures de la Nouvelle Vague, qui mettait la parole au premier plan de ses fictions, mais aussi Woody Allen. Dans les deux cas, La plupart du temps, dans leurs films du moins les plus verbeux, ce qu'on peut constater, c'est que les actions que posent les personnages, au moment où ils énoncent un certain nombre de choses, se trouvent en contradiction avec leurs paroles. Et sinon dire que entre le son et l'image, encore une fois, il y a une tension qui s'installe qui n'a pas grand-chose à voir avec la théâtralité, avec le théâtre. La théâtralité, c'est autre chose, mais avec le théâtre, dans la mesure où les contradictions des personnages vont s'affirmer par des inserts sur certaines actions qu'ils posent. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un, là, je vais exagérer, mais quelqu'un dit qu'il ne boit plus d'alcool, puis il se verse un verre d'alcool, puis à ce moment-là, on a un gros plan sur l'action, donc se verser un verre d'alcool qui se retrouve en rupture avec la parole du personnage. Donc, finalement, c'est par le montage, c'est par des mouvements de caméra, une rhétorique tout à fait cinématographique qui ne doit rien au théâtre, que la spécificité du cinéma et l'étude des comportements qui justifient souvent l'usage du dialogue dans les films fait son apparition d'une manière qui n'a rien à voir avec la forme romanesque, rien à voir avec le théâtre, même si il y a un dialogue qui s'installe entre toutes ces formes et fait la richesse et la complexité de beaucoup de films contemporains.
Je crois au bruit que ça fait la vie. Je crois en...
Et oui, je croise à l'huile jetée sur le feu, dernière strophe qu'on peut entendre à la fin d'une chanson du nouvel album de Lola Lafont qui s'appelle Une vie voleuse, très belle formule. Donc je parlais juste avant, je reviens sur ce que je disais, sur les rapports entre l'image et le son dans le cinéma comme étant finalement un peu sous-estimé, y compris dans le cinéma où le dialogue est très très important. Ça ne veut pas dire que l'image est laissée de côté. Roger Frappy, dans sa classe de maître hier, soulignait le fait que peut-être aujourd'hui un film comme Le déclin de l'Empire américain de Denis Arcand ne serait pas soutenu sous prétexte que le cœur principal du propos du film se déroule autour d'une table avec des personnages qui parlent. Et que ça implique, du moins en termes de préjugés, pour ce qui est des puissances de la forme cinématographique, ça implique un usage un peu en rétention, justement, ou en déficit par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Donc, dans un cinéma plus normatif. Donc, c'est important, s'accorder là à la parole était une manière aussi pour Frappy hier de montrer comment un film doit être accompagné lorsqu'on est producteur et qu'il ne s'agit pas simplement de se retrouver dans un rapport de force, de pouvoir et de tension avec son réalisateur, mais encore une fois, je le rappelle, de se prendre une position d'accompagnement avec le réalisateur où chacun partage une vision semblable du film qui est en train de se faire. Évidemment, c'est une sorte d'utopie. Dans le meilleur des cas, ça marche. Et Frappier, en terminant sa classe de main, j'allais dire sa conférence, mais qui était longue, donc lorsqu'elle devient longue et qu'on fait face à un professionnel du métier, on parle plus aisément de classe de maître. C'était quand même une conférence qui durait au moins un bon 2 heures. Donc dans la dernière demi-heure, il a présenté deux portions du film Maelstrom, en fait les deux mêmes portions, mais à deux moments différents de la production. Le film Maelstrom, je le soulignais tout à l'heure, est un deuxième film réalisé par Denis Villeneuve au début des années 2000, pour ceux qui ne l'ont pas vu, avec Marie-Josée Croze, que Villeneuve a contribué à inventer d'une certaine manière, en tout cas lui a donné une place de choix et travaillé sur sa photogénie. Et c'est un peu ce type de personnage qu'elle incarne dans le film Maelstrom qui va lui ouvrir la porte d'une carrière qui est la carrière qu'on connaît. Donc c'est une des qualités de ce film que d'avoir su créer une image forte autour d'une actrice. Et ça n'a pas été sans heurts ou sans difficultés. C'est entre autres ce qu'on peut remarquer à travers l'exemple de deux stades du montage de ce film. En fait, à la fin décembre, je crois, au début des années 2000, en tout cas, peu de mois avant la sortie de ce film en salle, Denis Villeneuve est allé parler avec Frappier, donc avant Noël, pour lui indiquer qu'il ferait un meilleur film la prochaine fois. Et Frappier lui a tout simplement dit « Non, c'est un film qui a beaucoup de potentiel, c'est les fêtes, prenons le temps d'y repenser un peu, puis on va voir ce qu'on peut faire. » Et donc, ce que constatait ensuite, après les fêtes finalement, lorsque Frappier est allé revoir le montage, il indique aujourd'hui du moins qu'il était perplexe à mesure que le montage avançait. Ce qu'il a constaté, et qu'on pouvait constater évidemment, d'autant plus qu'on le voyait, c'est le peu de place accordée à l'énergie du tournage, d'une part. Donc, c'est comme si le montage s'était fait dans une bulle, en l'absence de lignes directrices à travers, par exemple, ce qu'on appelle souvent la Bible ou le scénario. Donc, le montage final entrait souvent en contraire. Le premier montage final, puisque finalement, je vais l'expliquer à l'instant, ce montage-là va être refait. Le montage final ne correspondait pas exactement à ce qui était décrit dans le scénario autour du parcours de la protagoniste principale. Plusieurs contradictions. Et peu à peu, quand on regarde ce premier montage final, on se rend compte que finalement, on est un peu baigné dans un flux d'images, dans une sorte de fascination photogénique, d'enchaînement d'images, très très opaque. C'est-à-dire qu'on a du mal, même si on voit le personnage principal joué par Croze dans divers contextes, on a du mal à comprendre ce qui l'amène d'un lieu à l'autre. On a du mal à comprendre la logique du montage. C'est pas une logique linéaire, pas de problème. Il y a beaucoup de sauts à l'image dans la version finale, ce qu'on appelle des jump cuts. cuts, du moins superficielles, qui correspondaient peut-être à la mode à l'époque. Beaucoup de jump cuts, mais ces jump cuts-là sont pas très efficaces, ne justifient pas une sorte de vitesse d'enchaînement d'action qui était le sens, finalement, l'utilité qu'on trouvait au jump cut historiquement. Godard utilisait le jump cut dans Un bout de souffle, juste pour, entre autres, avoir un plus grand sens de la vitesse et une plus rapide exécution dans l'enchaînement des actions. C'est pas du tout ce qu'on voit dans ce montage-là. Et finalement, ça fait un montage très, très éthéré, un montage qui crée une ambiance, mais on a du mal à suivre le fil narratif. Et au bout de 15 minutes, je crois que c'est à peu près la durée de l'extrait qu'on a vu, on perd littéralement le fil. Et on perd, et le film se perd aussi. Et finalement, on a pu voir hier, tout de suite, après ce premier montage final, la deuxième version. Et Frappier raconte que au moment où il a vu ce montage-là, il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Le cinéaste, évidemment, trouvait que ça ne fonctionnait pas non plus. Et là, il a dû poser une action extrêmement difficile qui s'accorde avec ce qu'il dit, c'est-à-dire l'idée d'accompagner la vision du cinéaste jusqu'au bout. Il a viré le monteur. Bon, le monteur avait fini son travail. En fait, le film était monté de bout en bout. Et il a décidé de refaire le montage, après échange évidemment et discussion avec Denis Villeneuve, refaire le montage en engageant un autre monteur. Ce qui est quand même extrêmement radical parce que c'est un choix difficile parce que ça implique d'engager un nouveau monteur, littéralement, d'augmenter les frais de production de manière évidemment considérable, à la fois parce qu'il y a un nouveau cachet qui s'ajoute, mais encore parce que c'est du temps de production en plus, finalement, où tout le processus de mise en marché tel qu'il devait être prévu, ou en tout cas de sortie, tout le processus de mise en place lié à la sortie du film a dû être retardé, et en particulier il fallait annuler les rendez-vous avec les comités de sélection de festivals internationaux qui sont mis en place quand même beaucoup en amont de la sortie d'un film, de manière à ce qu'on puisse espérer que le film soit sélectionné dans des festivals internationaux, lui donner une vitrine qui va faciliter sa visibilité au-delà du contexte national, donc au-delà du Québec. Cette logique liée au festival est aussi un immense marché qui doit contribuer à la visibilité d'un film, à sa reconnaissance et à son succès. Bon, ça, c'est le point de vue du producteur. Mais voilà, le point de vue du producteur, à ce moment-là, c'est éloigné de la ligne directrice qu'il a en tête à la fin d'un film pour mieux se rapprocher du projet initial du film, soit la vision du réalisateur, on le suppose, qui ne s'accordait pas avec le premier montage. Donc, refaire le montage, ça impliquait être au plus près de la vision du réalisateur. C'est ce qu'on peut retenir en bout de ligne de l'exemple de Maestrom, qui était tout à fait intéressant et qui était une véritable leçon en ce qui a trait à la production et aux aléas de la production. Parce que lorsqu'on voit le film fini, on peut pas avoir en tête comment ça a été laborieux. Et je peux vous dire que la première version du montage montre très très bien le labeur qui a dû avoir cours dans la boîte, dans la salle de montage au moment de terminer ce film. Et ça aurait été certainement un tout autre film, un film un peu plus boiteux, sans doute, en tout cas beaucoup moins efficace et lisible. Donc, j'avais prévu aujourd'hui parler de plein de choses, j'ai quand même réussi à le faire, mais je passerai moins de temps à parler de... J'y arrive difficilement à chaque fois, mais on va y arriver. Je vais passer très peu de temps à parler de diffusion sur le web, de nouvelles plateformes de diffusion sur le web, mais je pourrais terminer quand même cette émission aujourd'hui pour parler d'un débat qui a eu lieu lors des rencontres cinématographiques de Québec hier autour de trois conférenciers, c'est-à-dire Patricia Bergeron. C'est un panel, en fait, de discussion autour de la diffusion du cinéma sur le web. Patricia Bergeron, qui est entre autres connue pour avoir piloté un des projets phares de l'Office national du film sur le web, qui s'appelle Parole citoyenne. Il y avait également Ashkan Karbash-Fouchan, qui est très connue pour... très connue, mais dans un autre registre que celui plus cinématographique ou associé au cinéma que Parole citoyenne, soit un projet qu'il soutient qui s'appelle Mojo et qui est un projet de diffusion qui se watchmojo.com en fait, un projet de diffusion qui est à cheval entre la production cinématographique de courts-métrages sur le web et quelque chose de l'ordre qui serait proche de YouTube en fait, qui se rapproche très bien de YouTube. Donc watchmojo.com est une sorte de YouTube montréalais. Je pourrais le dire comme ça mais vraiment grossièrement. Et également Monsieur Dubost qui était présent dans ce panel et qui, quant à lui, avait une vision beaucoup plus idéaliste, idéologique du web, en invitant le public de producteurs, de réalisateurs et de passionnés du cinéma à faire leur deuil du cinéma tel qu'il a été jusqu'à maintenant, considérant que le monde changeait et qu'entre autres, le web se définit par l'absence de frais, c'est-à-dire le web se définit par la gratuité et ça bougera pas. C'est quand même un leitmotiv qu'on a pu entendre au long de cette journée de discussion aussi également lorsque M. Daniel Payette est venu parler de la question des droits d'auteur pour les cinéastes au Québec à travers la diffusion sur le web au Québec et au Canada, et en particulier la loi C-32 qui risque de, si elle était appliquée, je crois qu'elle ne le sera pas, risquerait de faire en sorte que les droits accordés aux cinéastes par la diffusion sur le web soient quasi nuls, ce qui est quand même assez troublant. Il faudrait rentrer dans le détail de cette question-là, mais évidemment, comme je le disais, on n'a pas le temps. Et donc, on pouvait dire qu'il y avait quand même une confrontation entre le milieu de la production et de la réalisation dans la salle et des constats assez glaçants qui émanaient de la scène, à l'exception de Patricia Bergeron qui faisait sans doute le lien entre les deux milieux. Donc c'est un débat qui est en cours, qui va se prolonger à mesure que les débats vont également continuer en ce qui a trait aux droits d'auteur. Donc, je vais terminer là-dessus, aux droits d'auteur et à la diffusion sur le web. Je vais terminer là-dessus, je me suis déjà assez étendu, parce que c'est toujours agréable de faire cette émission. Donc, vous allez tout de suite passer à l'émission rétro-gardiste. Si vous êtes attentif, vous allez rester ici. On va changer d'ambiance et ça va être tout à fait festif, sans doute, comme souvent. Et je vous dis à très bientôt. Moi, je ne serai pas là la semaine prochaine, ni l'autre, parce que la semaine prochaine, c'est le Radioton. Et les autres semaines, je suis au Festival de cinéma indépendant de Buenos Aires, dont je pourrai largement reparler à mon retour. À bientôt.
Tu sens très très près de ce que ton corps dit dans le silence. Et puis, pourquoi dans le moment, je ne sais pas. Il y a peut-être la phrase « j'ai peur de la mort, mais j'ai moins peur ici ». C'est un fait, ça c'est vraiment...